Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique.
Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. La longue digression d'Ulpien autour du terme familia, famille, de ses différentes acceptions, s'achevait, comme nous l'avons vu lors de notre dernière séance, par la configuration familiale la plus large, celle de la gens, dont les membres sont liés par le sang en tant que descendants d'un progéniteur commun ultime et par la mémoire. Précisément parce que le progéniteur est souvent mythique et réel, comme dans le cas de Iule pour la famille Iulia, la mémoire partagée, les récits de famille, servent à remplacer ce lien que le sang n'arrive pas toujours à assurer. Mais tout comme le corps appelle son contraire, l'incorporel, la mémoire aussi évoque son contraire, l'oubli. L'oubli parfois nous sauve, parfois au contraire, le signe d'un devoir de mémoire qui a été enfreint. C'est ce que reproche Catulle à un ami qui semble avoir oublié ce qu'il avait promis. Alphénus, oublieux et faux à l'égard de tes camarades qui n'ont qu'une seule âme, n'as-tu donc insensible aucune pitié pour ton doux ami? N'as-tu désormais, perfide, aucune hésitation à me trahir, à me tromper? Crois-tu que les habitants du ciel aiment les actes impies des captieux mortels? Tu ne t'en soucies pas et m'abandonnes, malheureux, à mes maux. Hélas, que peuvent faire, dit les humains? À qui peut-on se fier? C'est toi pourtant, homme inique, qui m'engageais à livrer mon âme, m'entraînant à l'amour, comme si pour moi tout était sans risque. Et c'est toi maintenant qui te retire et qui laisse emporter dans les airs, par les vents et les nuages, toutes tes paroles, les actions non ratifiées. Mais si tu es oublieux, les dieux s'en souviennent, la bonne foi se souvient, qui te fera regretter plus tard ce que tu as fait. Face à l'instabilité de la vie humaine, Catulle croit trouver refuge dans la solidité des liens affectifs. Mais on le sait bien, ce sont précisément les liens les plus forts qui peuvent nous blesser le plus. Qui est cet Alphénus et quelle faute a-t-il commis pour blesser autant Catulle? Difficile à dire. Peut-être Alphénus avait-il convaincu Catulle de s'abandonner totalement à l'amour, d'abaisser ses défenses en lui assurant qu'il n'y a aucun risque à aimer totalement. Mais lorsqu'ensuite Catulle fait l'expérience de la douleur d'un amour tourmenté, son ami semble alors avoir renié ce qu'il lui avait dit, prétendant ne pas l'avoir persuadé à se donner totalement et niant lui avoir garanti que tout irait bien, sans danger. Mais si la faute d'Alphénus est d'avoir oublié, les dieux n'oublieront pas et tôt ou tard, il payera pour son insouciance. Il est difficile de dire si Catulle est sérieux ou s'il exagère pour le plaisir du jeu poétique. Et qui est au juste cet Alphénus oublieux? Approchons-nous encore un peu plus du poème. Il est jalonné du lexique de l'hypocrisie, de la tromperie et de la dureté de cœur, phallax, falsus, durus, par opposition au lexique de l'amitié, de l'unanimité, unanimis, c'est un mot magnifique, de la douceur et justement de l'oubli, par opposition au devoir de mémoire. Mais c'est aussi tout un lexique juridique, celui des promesses faites et non tenues, celui des garanties données et non respectées, qui s'évanouissent dans l'air comme des nuages emportés par les vents, métaphore qui explique le mot juridique irrita, sans effet, non ratifié. D'un côté, la fidesse, bonne foi, de l'autre, la perfidie, c'est le même mot, au contraire, l'iniquité, mot juridique par excellence. Toutes ces allusions juridiques rendent donc probable, à mon sens, que cet Alphénus, contre lequel Catulle profère ses vers, est bien un juriste. Publius Alphénus Varus, comme la plupart des commentateurs par ailleurs l'estiment. La vengeance de Catulle est alors de diriger les mots du droit, les flèches du droit, contre Alphénus, pour montrer à quel point il trahit non seulement l'amitié, mais aussi l'éthique de son métier. Cela dit, s'agit-il vraiment d'Alphénus le juriste? J'en serais très attristé, car il fut véritablement un grand juriste dont les textes sont riches en humanité. C'est pourquoi je me réfugie dans l'espérance que Catulle plaisantait, comme on peut le faire justement avec ceux qui nous sont les plus chers, les plus proches. Ce préambule poétique nous montre d'abord que on peut voir dans les textes tout ce que l'on veut. Il nous met tout d'abord face à une évidence. Le langage ordinaire entre dans le langage juridique, entre dans le langage juridique pour lui permettre de donner un corps au concept juridique. Mais l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que le langage juridique est repris par les langages communs et sert à construire des métaphores poétiques, comme ici, sous la plume de Catulle. Si vous en êtes d'accord, nous pourrions consacrer un cours, un jour, à explorer des poèmes à la recherche des métaphores juridiques. Donc, l'autre côté des métaphores. Mais pour l'instant, le poème de Catulle est aussi une façon de convoquer déjà plusieurs éléments de notre cours d'aujourd'hui. Le juriste Alphénus, qui en sera le protagoniste absolu, ensuite le thème de l'identité et aussi celui de la responsabilité. Alors commençons par l'identité. Selon l'étymologie et comme signification première, identité est la condition d'être idem, c'est-à-dire d'être le même. Idem vient de is ou id avec le suffixe d'insistance, dem ou em, ce qui correspond au grec tautotes. Le mot identité désigne donc en principe un rapport d'égalité absolue, de correspondance parfaite entre deux ou plusieurs éléments pris en considération. En tant que tel, il s'agit d'un schéma de relation. La relation dépend, et ça c'est très important, des critères qu'on adopte pour établir cette relation. Ainsi, par exemple, on pourra dire des deux objets qui sont identiques si l'on regarde la forme ou la couleur. Néanmoins, conçue de cette façon, l'identité est seulement relative, parce qu'elle ne satisfait pas, comme ce serait le cas avec l'identité absolue, la loi de Leibniz sur l'indiscernabilité des identiques. La loi de Leibniz veut que si A est identique à B, alors tout ce qui est vrai de A doit être vrai aussi de B. Alors, par exemple, ces deux têtes d'Apollon qui nous semblent identiques, qu'est-ce qui les différencie? Cherchez pas des détails. Ce qui les différencie, c'est qu'elles n'occupent pas le même lieu dans l'espace. Donc il y a, sous un rapport, il ne s'agit pas, on ne peut pas dire de l'une et de l'autre la même chose à l'identique. Alors, une relation d'identité, alors donc nous sommes encore dans un cas d'identité relative, on ne peut pas dire que sous tous les aspects, les deux statues, les deux têtes d'Apollon sont identiques, donc c'est une identité relative. Mais une relation d'identité peut être instaurée, dit Aristote, aussi entre les choses qui, tout en ayant plusieurs noms, ne sont pourtant qu'une seule et même chose. Par exemple, Paul Valéry est l'auteur du Cimetière marin. On parle, en ce cas, d'identité numérique. Et je sais bien qu'on parle d'identité numérique aussi dans un autre sens plus moderne. On se réfère à une identité spécifique quand les choses qui, tout en étant distinctes, sont indiscernables sous le rapport de l'espèce. Par exemple, et je suis en train de citer Aristote, un homme et un autre homme, donc ils appartiennent à la même espèce, un cheval, un autre cheval. Donc, il s'agit d'une identité spécifique. Relation d'identité peut enfin s'appliquer à une même chose confrontée avec elle-même sur l'axe du temps, à des moments différents. Il s'agit du type d'enquête diachronique, à travers le temps, qui conduit à reconnaître, par exemple, que telle chose est la même que celle que nous avions vue à un autre moment, ce qui fait que lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous le reconnaissons. Donc nous pensons que c'est la même personne que nous avons vue. Et donc ça nous amène à notre question. Est-ce que nous sommes vraiment les mêmes personnes que la semaine dernière ? Alors, ce genre de réflexion était bien connu des juristes romains. Les textes les plus fameux proviennent justement d'une œuvre de Publius Alphenus Varus. Deux mots encore sur lui, fut consul en 39 avant Jésus-Christ, donc en pleine guerre civile, commandant militaire, et comme nous le savons, il fut aussi un personnage de première importance sur la scène culturelle. Catulle n'est pas le seul, Horace et Virgile s'en souviennent aussi dans leurs vers. Virgile, conserva grâce à lui ses terres, ne lui dédia rien de moins qu'une de ses églogues, la sixième. Donc un curriculum imposant qui exemplifie, donc c'est un exemple du rôle majeur que le juriste jouait dans la société romaine. Ça fait toute une différence par rapport au rôle des juristes en Grèce. Donc les juristes romains étaient aussi, appartenait aussi à l'élite, disons, politique ou économique. Alors, avant de lire son texte, le voici. Ce sera un défi de lire ce texte, le commenter, mais je pense que nous sommes prêts à le faire. Alors, une précision, comme vous voyez ici, les cours d'aujourd'hui reprend ce que j'ai proposé il y a quelques années dans un livre sur les juristes écrivains de la Rome antique, qui par ailleurs reprenait un cours que j'avais donné ici sur l'invitation de John Scheid. Et alors, si je le reprends, c'est parce qu'il me semble très pertinent pour le cours de cette année. Moi, je dirais presque une anticipation ou un présage, mais ça montre aussi que lorsqu'on fait un parcours de recherche, on a certaines perspectives qu'on, parfois inconscientes ou qu'on développe, on poursuit pendant des années. Alors, j'en profite pour dire que les cours du Collège de France sont enregistrés. Mais ils sont bien évidemment, il faut le répéter, soumis au droit d'auteur. Alors, au moment où je me cite, je m'autorise à le dire. Et donc, il y a parfois des chercheurs qui semblent l'oublier. Et donc, il faut dire que si on évoque ce qu'un professeur dit lors d'un cours d'ontologie demande de citer la source, de ne pas agir comme l'oublieux Alphenus. Alors, c'est bien que la science soit ouverte, mais pas à ce point-là. Lisons ensemble donc ce texte. On proposait ce cas d'espèce. Des juges avaient été nommés pour trancher un même litige. Quelques-uns d'entre eux, après avoir entendu discuter la cause, ont été libérés du devoir de juger, et d'autres les ont remplacés. Il était question de savoir si le changement de certains juges avait rendu différent le jugement ou si c'était encore la même chose. J'ai répondu que le jugement resterait le même, non seulement s'il y avait eu un ou deux juges de changer, mais même s'ils l'avaient tous été. Alors, je vous propose de découvrir ce texte peu à peu, donc nous nous arrêtons ici. Alors, du point de vue littéraire, ce texte est joliment structuré en trois parties. En premier lieu vient le cas d'espèce, puis la question est posée. Enfin, le juriste énonce son avis, sa réponse, qu'il motive ensuite longuement. Donc vous voyez d'abord le cas d'espèce. Des juges avaient été nommés pour trancher un même litige. Quelques-uns d'entre eux, après avoir entendu discuter la cause, ont été libérés. D'autres les ont remplacés. Question de savoir si le changement de certains juges avait rendu différent le jugement, disons, pour simplifier, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons, est-ce que le jury est toujours le même? J'ai répondu que le jugement resterait le même, non seulement s'il y avait eu un ou deux juges de changer, mais même s'ils l'avaient tous été. Alors, je pense que par les biais de cette structure, on peut voir, d'une certaine façon, le client qui s'approche du juriste, lui expose ce qui s'est passé, puis formule la question, enfin, il écoute la réponse du juriste. La structure imite donc une consultation orale, mais avec une longue justification qui a l'air d'un développement plus littéraire. En tout cas, il ne s'agit pas d'une discussion purement rhétorique, pardon, purement théorique, sans prise avec la vie quotidienne. Par exemple, déterminer si la substitution d'un juge ou de plusieurs juges au sein d'un jury modifie ou pas l'identité du jury et par conséquence du jugement, permet de savoir si le prêteur doit rendre ou non un nouvel ordre de juger dont dépend le pouvoir des juges à émettre une sentence contraignante pour les parties. Donc il y avait plusieurs de ces aspects pratiques qui étaient impliqués dans une question de ce genre. Autre précision, de quel collège, de quel jury s'agit-il? Alors, Alphénus ne le dit pas, peut-être que le nombre de juges était dans les textes, mais que Justinien, pour des raisons variées, a pu, disons, supprimer les noms spécifiques. Il s'agit sans doute des recuperatores, récupérateurs, mais cela nous montre que cette question était une question, disons, assez large, avec une visée large. Elle n'était pas réduite, restreinte à un cas spécifique à des juges en particulier. Alors, la réponse à la question, on l'a vu, est très claire. Alphénus répond que les jurys restaient les mêmes. Et pas seulement si on change un seul juge dans le collège, mais même si tous les juges ont été changés. Alors, comment est-ce qu'il parvient à cette conclusion? Alors, lorsque nous sommes confrontés à une question de ce genre, la première sensation est celle de la désorientation, d'un manque de points de repère. Comment peut-on traiter ce cas? Comment peut-on l'aborder? Moi, je ne dis pas encore comment le résoudre, mais comment le traiter? Comment le manier? Comment le réduire à un terrain familier, à des schémas, des expériences qui nous appartiennent et qui puissent nous mener à une décision raisonnable? Alors, c'est justement lorsque le lecteur tombe dans un état d'incertitude de ce genre, c'est là que la pensée thésaurisée dans le texte ancien lui vient en secours. Il prend alors conscience de la nature de la jurisprudence romaine, c'est-à-dire son statut de technique qui s'appuie sur le raisonnement. Alors, pour argumenter sa réponse, Alphénus recourt à une série d'exemples qui portent sur la substitution d'une partie, laissant identique le tout auquel elle participe. Donc, ça, c'est la démarche. Il essaye de confronter ce cas à d'autres cas, d'une certaine façon, semblables. Alors, lisons donc la portion du texte concerné. Donc, il a répondu qu'il n'y a pas de changement et il enchaîne « En effet, une légion est toujours censée être la même, bien que plusieurs de ceux qui la composaient l'aient quittée et qu'on leur en ait substitué d'autres. Le peuple aussi est censé être le même aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Bien que plus personne de ceux qui existaient ne soit encore en vie. Alors, pour arriver à déployer ces exemples, pour entamer cette confrontation, Alphénus a en effet déjà fait un premier pas argumentatif implicite qu'il nous revient de découvrir. Alors, ce premier pas est de considérer les juges comme un corps. Comme un corps. Notamment un corps collectif. Alors, c'est une catégorie qui appartient à une tripartition remontant à la philosophie stoïcienne, en particulier à Chrysippe. Alors, cette tripartition définit les conditions qui font qu'un objet physique ordinaire, par exemple une partie distincte du monde visible, est un corps. Alors, parmi les nombreuses allusions, vous allez revoir plusieurs fois cette diapo, donc je l'ai mis sur un fond blanc. Donc j'ai choisi pour vous montrer cette tripartition, il y a plusieurs textes qu'on aurait pu vous montrer, mais j'ai privilégié un texte juridique, pas seulement parce qu'il s'agit d'un juriste, ce qui montre la circulation de cette tripartition parmi les juristes, c'est un juriste disons, qui vient quelques générations après Alphénus, mais donc ça montre quand même la circulation de ce genre de pensée parmi les juristes, mais aussi parce que parmi les sources qu'on aurait pu vous montrer, c'est vraiment une description très claire, très brève, comme dans le style des juristes. Donc nous la lisons, il y a trois espèces de corps. Alors, le premier type de corps est régi par un seul esprit, Les Grecs l'appellent ennomenon, comme un homme. Merci de vous souvenir des exemples. Un homme, un morceau de bois, une pierre et d'autres choses semblables. Choses, disons, unitaires. Les corps de la deuxième espèce sont constitués par des éléments rattachés, donc plusieurs éléments, mais rattachés, c'est-à-dire par plusieurs corps cohérents, réunis ensemble, ce que les Grecs appellent sunemenon, comme un édifice, un navire, une armoire. Les corps de la troisième espèce sont constitués des parties séparées, comme le sont plusieurs corps non liés ensemble, mais compris sous un même nom, si vous voulez, ce qui réunit les corps qui font partie, les éléments qui font partie de cette troisième catégorie des corps, c'est le nom, leur dénomination, c'est un concept qui les lie. Par exemple, le peuple, une légion, un troupeau. Les stoïciens distinguaient donc, en fonction de leur composition, les corps unifiés, les corps composés des parties jointes et les corps composés des parties séparées. Alors, Le fait que les juristes ont repris cette tripartition ne veut pas forcément dire qu'ils avaient une propension philosophique, un engouement pour la philosophie. C'est vraiment que cette tripartition était tout à fait répandue, au point que Plutarque s'en sert pour, disons, une sorte de jeu. Parmi les corps, les philosophes disent des uns qui sont composés d'éléments distincts. Vous savez bien, il y a toute une pédagogie, donc je reprends ce texte qui est un peu moins, disons, aride que un texte d'un juriste, afin que vous puissiez réviser les trois catégories. Donc on commence, mais vous voyez au contraire, parce qu'il a commencé pas par la catégorie des choses unitaires, mais par la catégorie des choses, disons, collectives, comme une flotte ou une armée. D'autres parties jointes, comme une maison, bâtiment, ou un navire, sont les mêmes exemples de Pomponius. D'autres, enfin, qu'ils forment en tout d'une seule nature, comme c'est le cas de chaque être vivant, donc l'homme, par exemple. Alors, c'est à peu près ainsi que dans le mariage, l'union de gens qui s'aiment forme en tout d'une seule nature, celle des gens qui s'épousent pour la dot ou pour les enfants est composée des parties jointes, celle des gens qui ne font que coucher ensemble d'éléments distincts qu'on pourrait penser de ce dernier qu'ils habitent ensemble mais ne vivent pas ensemble. Il faut au contraire, tout comme les physiciens disent des liquides, qu'il y a fusion de tous leurs éléments, que chez les époux se confondent les uns avec les autres, corps, bien, amis, relations. De fait, le législateur romain a interdit aux conjoints de s'offrir, vous voyez la conséquence, le législateur romain a interdit aux conjoints de s'offrir ou de recevoir des cadeaux, non pas pour qu'ils n'acceptent rien l'un de l'autre, mais pour qu'ils considèrent le tout comme leur bien commun. Donc, parce que si on s'échange des cadeaux, c'est comme impliquer que ce que nous possédons n'appartient pas aux deux, mais qu'on peut avoir un patrimoine d'où on puise les cadeaux à donner à l'autre, à notre époux. Alors, vous voyez cette application, si vous êtes en manque de phrases romantiques, donc souvenez-vous de ce passage de Plutarque, mais à bon moment, pas lorsque vous donnez un cadeau. Alors, si Plutarque l'employait pour une typologie des rapports conjugaux, voyons donc comment Alphénus en tirait profit de cette tripartition pour résoudre la question de l'identité des juges. Ainsi que nous l'avons dit, le premier pas implicite que notre juriste accomplit est considérer les juges comme un corps collectif, un corps ex distantibus, un corps collectif. Donc vous voyez, une légion, le peuple. Alors, ces deux exemples offrent déjà aux juristes un premier appui à une réponse affirmative. Le remplacement de certains soldats, voire même de tous les membres du peuple, affirme Alphénus, laisse subsister la même légion, avec le même drapeau par exemple, le même nom, et le même peuple, avec le même nom, avec les mêmes lois par exemple. On remarquera que dans les cas du peuple, les juristes utilisent ici explicitement la catégorie du temps. Donc je vous ai parlé d'identité diachronique à travers le temps, et ici Alphénus y fait référence. Alors le temps, c'est un axe sur lequel sont positionnés les deux éléments de comparaison, c'est-à-dire les gens formant le peuple aujourd'hui et les gens qui les formaient il y a 100 ans. Alors, accompagnons Alphénus. Donc nous avons dit que par le biais de cette tripartition, il arrive à proposer des exemples qui peuvent être rapprochés du cas qu'il doit résoudre, celui de la composition d'un jury. Donc, après avoir traité les deux cas de la Légion et du peuple, il passe au troisième. Un navire est censé être le même, bien qu'il ait été radoubé tant de fois qu'il ne reste plus une seule des anciennes planches qui ne soit pas nouvelle. Alors, pourquoi un navire ? Mais je suis sûr que vous avez la réponse. Pourquoi, ici, à ce moment-là, un navire et pas un autre exemple ? Vous avez la réponse. Encore une fois, c'est ça le soubassement, l'arrière-plan. Donc, après avoir parlé des corps composés des parties séparées, comme par exemple le peuple, la légion, il passe à les choses de la deuxième espèce, constitué par des éléments rattachés, par exemple un navire. Donc c'est pour ça que Alphénus arrive tout naturellement à ce deuxième exemple. Mais avec l'exemple du navire, les eaux dans lesquelles s'est aventuré Alphénus se révèlent plus agitées. Déjà, le juriste italien, mais qui a fait sa fortune d'abord en France, André Alcia, au début du XVIe siècle, l'avait noté dans ses Parerga. C'est un ouvrage magnifique, vraiment précurseur, et parfois aussi vraiment comble, riche d'idées assez marrante, pour ainsi dire. L'exemple d'Alphénus renvoie implicitement, comme Alcia l'avait remarqué, au problème philosophique qui avait pour emblème le bateau de Thésée. L'embarcation à 30 rames sur laquelle le héros avait accompli la traversée, ramenant sain et sauf les jeunes gens destinés au Minotaure. Jusqu'à l'époque de Démétrius de Phalère, à la fin du IVe siècle, le bateau fut conservé par les Athéniens comme un monument. Il fut continuellement restauré, c'est pourquoi il fut érigé en ce fameux problème philosophique. Le bateau de Thésée subsiste-t-il encore quand toutes ses planches ont été remplacées ? Et pourtant, pour le navire, comme pour la légion et le peuple, Alphénus ne semble absolument pas troublé par ce dilemme. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Alors, il y a un arrière-plan qu'on peut arriver à déceler, mais cet arrière-plan qui renvoie à des dilemmes philosophiques, Alphénus ne semble pas être troublé par le fait de l'aporie, de la difficulté à résoudre ces dilemmes. Il adopte tout de suite une position univoque, le navire reste le même, bien que les planches aient été toutes remplacées. Donc, il n'était pas vraiment troublé par les mêmes doutes que le philosophe, qui agitait les philosophes. Alors, il faut comprendre pourquoi. La réponse est bien simple, il n'était pas un philosophe, il était un juriste. En réalité, on pourrait dire que l'exemple qui régit le tout est le dernier exemple qu'il va nous présenter maintenant. C'est-à-dire l'exemple de l'homme. Alors, que l'homme finisse la série des exemples ne peut pas nous surprendre. Alphénus suit tacitement le sillon tracé par le lieu commun de la tripartition des corps et nous avons bien vu que après avoir suivi Légion, Peuple, ensuite, deuxième exemple, des corps constitués par des éléments rattachés, c'était le navire. Le premier type de corps, régi par un seul esprit, Premier exemple, l'homme. Donc, tout est clair. Apparemment. Alors, si évoquer l'homme n'a rien de surprenant, toutefois, l'usage qu'Alphénus fait de cet exemple révèle son habileté et son autonomie. Alors, comment se sert-il de l'homme? Alors, si quelqu'un s'obstinait à penser qu'une chose cesse d'être la même lorsque ses parties sont changées, il arriverait que, selon son raisonnement, nous ne serions pas les mêmes que nous étions il y a un an, puisque, comme le disent les philosophes, les parties minuscules qui composent notre corps se détachent chaque jour et sont remplacées par d'autres venant de l'extérieur. Ce que dit Alphénus. Alors, dans ce passage, j'imagine que vous avez perçu que Alphénus est presque en train de s'adresser à un interlocuteur critique, en disant si quelqu'un s'obstinait à penser que nous changeons d'un moment à l'autre, vous voyez, cette posture un peu de réponse à une objection qu'on considère un peu faible, un peu déplacée. Donc, d'abord, il y a cette perspective critique, mais deuxième élément qu'il faut remarquer de cette phrase, c'est qu'il s'agit d'un argument par l'absurde. Alors, comme vous le savez, la démonstration par l'absurde est un argument inductif. On part d'une hypothèse, on en déduit des conséquences, on constate qu'une ou plusieurs de ces conséquences est absurde pour une raison quelconque, on rejette l'hypothèse de départ. Donc, si on constate que l'une des conséquences de l'hypothèse de départ est absurde, on rejette l'hypothèse de départ. Et c'est inductif, parce qu'on part du bas pour aller vers le haut. Alors, plus la conséquence qui découle des prémices est absurde, inacceptable, plus la démonstration que l'hypothèse de départ est à réfuter est efficace. Dans les cas d'Alphénus, l'hypothèse combattue est que les choses changent avec la transformation de leurs composantes, donc c'est l'idée, le jury, si on change en juge, devient autre, nous, par conséquence de cette mutation des particules qui nous composent, nous pourrions dire des cellules, nous également changeons en permanence. Alors cette hypothèse, pour lui, est absurde. Mais est-il vraiment si inacceptable et absurde de penser que l'homme cesse d'être lui-même avec le changement de la matière dont il est composé? S'agit-il d'une hypothèse si absurde que ça? En fait, ce n'est pas du tout le cas. La question de l'identité ou non de l'homme dans le temps était au centre d'une violente dispute philosophique encore plus vive que celle concernant le bateau de Thésée. On a dit, à juste titre, que c'est probablement la question fondamentale qui a traversé toute la philosophie ancienne, la question de l'identité de l'homme au fil du temps. Elle remontait à la philosophie présocratique et la conclusion que nous changeons au fil du temps était justement la conclusion à laquelle a mené un argument fameux appelé « operioxeseos logos », c'est-à-dire l'argument de la croissance. Ou aussi « auxomenos logos » par allusion à sa complexité croissante. Donc, soit c'est l'argument autour de la croissance, soit c'est l'argument qui croît en complexité. Alors, selon Plutarque, l'argument de la croissance était très ancien et avait été posé la première fois par Épicarme. Vous voyez ici son nom, Épicarme, qui avait été aussi le premier à l'appliquer à l'homme. Donc, pas seulement l'argument, mais aussi application de cet argument à l'homme, à l'identité de l'homme. Alors, Épicarme est un personnage considérable auquel Aristote attribuait le mérite d'avoir créé la fable comique. Donc, en gros, celui qui aurait inventé la comédie comme genre littéraire. Il était originaire de Mégara Iblea en Sicile ou de Syracuse. Il connut son apogée dans la première moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc pour faire une comparaison avec Rome, au moment où à Rome on a promulgué les 12 tables, plus ou moins. Alors, en plus d'avoir été un auteur de comédies, et ça c'est un côté très discuté, mais qu'il faut avoir à l'esprit, en plus de lui avoir reconnu un certain nombre de comédies, l'Antiquité a reconnu un Épicarme aussi un philosophe, avec un penchant pour le pythagorisme. On est arrivé, Diogène Laërce, l'auteur des vies des philosophes, a attribué à Épicarme un certain nombre de doctrines qui auraient été ensuite reprises par Platon. Donc pour vous dire l'importance reconnue à Épicarme. Alors, l'une d'elles serait justement cet argument de la croissance que nous allons maintenant lire. Alors, c'est un dialogue entre A et B, donc il faut avoir ça à l'esprit. Si tu ajoutes un caillou, un nombre impair de cailloux, ou si tu préfères un nombre pair, ou si tu enlèves l'un de ceux qui sont déjà là, des cailloux, il comptait à l'aide des cailloux, donc imaginez-vous plus ou moins la scène. Donc si tu rajoutes ou tu enlèves un caillou, crois-tu que leur nombre va rester le même? Non, je ne le crois pas. De même, si on décide d'ajouter à une mesure d'une coudée une autre longueur ou de retrancher cette longueur à la mesure qui était déjà là, est-ce que cette mesure va subsister? Donc si on rajoute un centimètre ou on enlève, est-ce que la mesure précédente demeure la même? Non. Maintenant, considère de la même façon les êtres humains. L'un croit alors que l'autre dépérit. Au changement, tous sont soumis, tout le temps. Ceux qui par nature changent et ne restent jamais dans le même état doivent maintenant être différents de ce qui a changé. Donc ce qui vaut pour les nombres, ce qui vaut pour les mesures, doit valoir aussi pour les hommes. Ainsi donc, toi et moi, hier, nous étions autres, aujourd'hui, nous sommes autres et nous serons autres demain. Et à ce compte-là, selon cet argument, nous ne sommes jamais les mêmes. L'argument de la croissance est d'une évidence frappante. Un nombre auquel est ajouté ou retranché une quantité devient un autre nombre. En toute logique, donc, l'augmentation ou la diminution sont en réalité destruction du nombre préexistant et génération d'un nouveau nombre. Si l'argument est appliqué à une entité différente de celle des nombres, le résultat ne change pas. Ainsi, si l'on applique à l'homme, qui est sujet de façon continue, bien qu'imperceptible, à l'augmentation comme à la perte de particules, mutation des cellules, il n'est pas correct d'affirmer que l'homme croît ou diminue, comme s'il existait une quelconque entité permanente qui resterait identique en elle-même dans les processus de croissance ou de diminution. Plus correctement, du point de vue logique, à tout instant, des êtres différents, l'un de l'autre, apparaissent et disparaissent. L'homme X ne croît pas entre l'instant T et l'instant T1, l'homme X qui existe à l'instant T est remplacé par un autre homme Y qui est plus grand que X, existe dans l'instant T1. En somme, l'auxor menos logos contraint à admettre que toi et moi aussi, hier autre et aujourd'hui autre nous devenons, et puis encore autre et jamais les mêmes. Alors, il est évident que Alphénus, dans ce passage, avait à l'esprit l'auxor menos logos. Ça, c'est évident, les mots sont presque les mêmes. Quand il affirmait qu'en se tenant à ses raisonnements qu'il refusait, donc l'argument qu'il refusait était porté par un tenant de l'auxor menos logos. Alors, selon cet argument, nous aussi ne serions plus les mêmes qu'un an auparavant. Alors, avoir reconnu l'auxor menos logos comme arrière-plan du discours d'Alphénus nous apporte quelques éclaircissements. Alors, d'abord, j'imagine que quelqu'un parmi vous a remarqué ce que je vais dire. L'homme, selon la tripartition des corps, est un corps unitaire, régi par un seul esprit. Corps unitaire. Alors, c'est seulement si l'on considère sous l'angle de sa composition, disons, atomique ou cellulaire, donc comme un agrégat d'éléments cohérents, mais pas comme une chose unitaire, seulement si l'on considère comme un agrégat d'éléments minuscules, qu'il devient un corps composé du même type que le bateau et qu'il peut être soumis à l'auxor menos logos. Et c'est justement l'opération accomplie par Alphénus dans ce passage et aussi par d'autres auteurs anciens. Deuxième éclaircissement qui nous vient de cet arrière-plan, nous décelons une fragilité de l'argument du raisonnement d'Alphénus. Pourquoi? Parce que les prémices de l'argument de la croissance, de l'auxor menos logos, l'argument de la croissance, étaient partagés par tous les écoles philosophiques. Je pense que vous vous souvenez, le premier texte que j'ai lu cette année en vous accueillant à nouveau, c'était un texte qui évoquait le flux de la matière et du temps. Donc, c'était un lieu commun de toutes les philosophies anciennes qu'il y a toujours ce mouvement, ce changement. Donc, Alphénus lui-même le reconnaît. Tous les philosophes sont d'accord pour dire que les corps sont sujets à ce changement. D'ailleurs, l'argument de la croissance était très logique. Donc, comment est-ce que Alphénus, ayant à l'esprit cet arrière-plan, comment est-ce qu'il peut nous dire que considérer que l'homme change tout le temps est une conséquence absurde? On devrait penser le contraire. À quelles ressources Alphénus a-t-il fait appel pour se positionner de l'autre côté, pour résoudre les problèmes? Comment a-t-il pu, avec tant de sûreté, soutenir qu'il est absurde que l'homme change dans le temps? Alors, d'abord, on peut dire qu'il ne faut jamais oublier, même si je me méfie un peu, pour ne dire pas énormément, ben, il ne faut pas toujours oublier le bon sens. Donc, je pense qu'Alphénus considérait que ses lecteurs ou ceux qui écoutaient ses réponses n'étaient pas si prêts à admettre ce changement qui nous vole notre identité, notre persistance. On peut en retrouver peut-être un indice, parce qu'il passe de façon insensible d'un récit assez impersonnel à un récit à la première personne. Si quelqu'un s'obstinait à penser qu'une chose cesse d'être la même lorsque ses parties ont changé, il arriverait que selon son raisonnement, nous n'essayerions pas les mêmes que nous étions il y a un an. Il y a une sorte d'appel émotionnel. Il veut nous mettre devant le fait accompli. Est-ce que vous êtes prêts à vous dépouiller de votre identité dans le temps ? Nous, c'est une question qui nous concerne. Ce n'est pas seulement cet appel, subjectif à l'émotivité qui fonde ce raisonnement. Alors, la voie que Alphénus a empruntée nous est suggérée, encore une fois, par un autre texte qui relève de la discussion philosophique. C'est un papyrus qui a été découvert, édité en 1905. Et il s'agit d'un commentaire au Tête de Platon. Et dans ce commentaire, le commentateur d'un passage du Tête de Platon évoque Épicarme. Et il évoque Épicarme en disant qu'il avait mis en comédie l'argument de la croissance. Donc, comprenez, je vous avais dit qu'on disait que Épicarme avait aussi travaillé dans le champ philosophique, qu'il avait prêté certains arguments, que Platon s'était emparé de certains arguments d'Épicarme. Ici, nous voyons un commentateur d'un texte de Platon qui reprend une comédie d'Épicarme et qui utilise cette comédie pour expliquer un passage de Platon. Et Épicarme, dit ce commentateur, représenta de façon comique la scène dans laquelle un tel, sollicité pour payer sa contribution au banquet, nie être la même personne. Donc il y a quelqu'un qui demande à une autre personne payer sa dette. Alors, le débiteur nie être la même personne à cause des ajouts et des pertes qu'il a subies. Donc, c'est pas moi le débiteur, c'est un autre, parce que j'ai subi des pertes et des augmentations, donc au vu de l'argument de la croissance, c'est pas moi. Alors, c'est lui qui avait, le créancier qui avait fait la demande des paiements, le frappe, et quand il est accusé pour cela, il réplique à son tour que autre était l'homme qui avait frappé, autre l'homme qui est accusé. Ça, c'est l'argument de la mise en scène comique. Alors, vous voyez qu'il a choisi, Épicarme, une relation juridique pour mettre en scène cet argument, avec un débiteur qui nie sa responsabilité en faisant appel à l'argument de la croissance. Et le débiteur effronté est payé en retour avec le même sophisme, exaspéré par son obstination, le créditeur le malmène, et donc quand il est appelé en justice, on l'a bien vu, pour répondre des coups, nie sa propre responsabilité en affirmant ne plus être le même qu'au moment où il avait frappé son adversaire. Alors souvent, c'est en riant qu'on dit la vérité. Cette mise en scène comique de l'argument de la croissance éclairante, elle explique, me semble-t-il, pour quelle raison Alphénus, en tant que juriste, ne pouvait que prendre parti pour l'identité de l'homme dans le temps. vous souvenez, le problème c'était que il disait que c'était absurde que l'homme changeait, mais le problème était qu'il y avait maintes philosophes qui nous disaient que c'était tout à fait logique de considérer que l'homme change tout le temps. Donc pourquoi il a choisi cette voie? Parce que, comme on l'a vu par l'entremise, par le biais de cette mise en scène juridique, il ne pouvait prendre parti pour l'identité de l'homme dans le temps. Autrement, Alphénus aurait vu se dissoudre les sujets des rapports juridiques, s'évanouir tous les prêteurs et les emprunteurs, les déposants, les dépositaires, les voleurs, les propriétaires, les époux, les enfants, tout sujet du droit ne garderait pas son identité pour un temps suffisant pour garantir la solidité des rapports juridiques. Donc, pour un juriste, c'était nécessaire de se tourner plutôt vers le côté de la stabilité, de l'identité, que vers le côté du flou. L'exigence de stabilité était essentielle pour penser l'ordre juridique. Donc, Alphénus fait le choix qui était impossible pour les philosophes, en plaçant le discours sur un autre plan, celui qui lui était propre, le plan du droit. Et c'est sur ce plan que sa conclusion est tout simplement nécessaire, et le contraire serait absurde. Dans le monde du droit. Donc, elle serait absurde dans le monde du droit, qui est un monde qui est créé par la pensée des juristes. Alors, si Alphénus avait été un auteur de comédies comme Épicare, mais il aurait fait tomber les rideaux à ces moments, et vous en seriez soulagé, puisque le final dans lequel son raisonnement culmine est désormais accompli, avec l'entrée en scène du vrai protagoniste, l'homme sujet de droit. Mais Alphénus est un juriste et sa réponse se poursuit. Prenant congé du lecteur, Alphénus offre une maxime à appliquer dans de nombreux cas, c'est-à-dire une règle, sorte de règle. Ainsi, lorsque l'espèce d'une chose reste la même, la chose aussi est censé être la même. Donc c'est une règle. Le mot-clé est species, lié à voir, specio, apercevoir, regarder. Ce mot désigne l'apparence externe, mais c'est un mot polysémique. Species signifie aussi l'espèce au sens classificatoire, comme lorsque nous classons les animaux par espèce, donc classification. Peut être utilisé même pour traduire en latin l'idée platonicienne ou la forme, la morphée aristotélicienne. Alors, en utilisant species, et il est le premier à le faire, Alphénus utilise le mot au sens classificatoire. Il veut dire que, par exemple, pour autant qu'un navire conserve sa spécificité, à savoir, pour autant qu'il est reconnaissable comme appartenant à la classe des navires, donc si ce navire appartient à la classe des navires, il continue à être le même navire qui garde son individualité en dépit du changement de ses planches. En ce sens, la species, qui est espèce au sens de classe, fonctionne comme soutien de la continuité de l'objet, de son individualité, de son identité. Alors, nous avons terminé notre lecture. Au terme de cette analyse, il est difficile, je pense, de nous replacer dans l'état de désorientation que nous avions éprouvé en lisant pour la première fois le texte d'Alphénus, il y a une heure. De revivre la surprise face à sa question. Le jury reste-t-il le même si un ou plusieurs, voire tous les juges, ont changé? Alphénus, pour répondre, a su trouver les outils conceptuels. Il a emprunté à la philosophie ces catégories pour réduire le problème à la dimension discursive, une démarche indispensable pour prétendre traiter ce problème. Alors, son avancée première et fondamentale a été d'adopter la tripartition stoïcienne des corps, ce qui lui a permis d'inscrire le cas des juges dans une série de cas similaires. Ensuite sont venus à son aide l'argument de la croissance, remontant à Épicarme, l'idée du flux de la matière, grâce à laquelle le juriste a pu inclure également l'homme en soi corps unitaire, parmi les corps sujets à modification de leur partie. Cette façon a pu accomplir le mouvement argumentatif décisif, c'est-à-dire confronter les lecteurs à la conséquence ultime d'un raisonnement qui accepterait que le changement d'un juge ou plus changeât le jury. Alors, l'homme devrait également être considéré comme un autre, lui-même, à chaque moment successif de sa vie. Conséquence absurde, absurde non pas en termes philosophiques, mais plutôt juridiques, parce qu'un tel manque de continuité de l'homme entraînerait avec lui la dissolution du sujet du droit. Alors, avec le cours de cette année, nous mettons en place toute une série de représentations différentes du corps. Nous avons vu le corps comme une synecdoque de l'individu, de son identité. Nous avons vu les concepts juridiques prendre corps, comme lorsqu'on imagine que l'héritage passe d'un sujet à un autre. Nous avons vu l'héritage perdre son corps et devenir une chose incorporelle. Aujourd'hui, nous avons vu le corps devenir la catégorie capable d'incorporer des phénomènes complètement différents. Finalement, le corps de l'homme se désintègre sous l'effet de son changement, puis se reconstitue grâce au droit et au bon sens. Nous commençons à réaliser combien le langage des juristes, qui nous paraissait simple, se développe comme une hydre, essayant de relever les défis les plus difficiles, trouver les mots pour saisir une réalité infiniment multiforme qu'est le monde. Alors, pour nous donner rendez-vous la semaine prochaine, après Pâques, regardons cette statue. Elle représente Aphrodite. C'est une copie du 1er siècle, d'un original du 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors, le fait qu'il s'agisse, il s'agit d'une copie, déjà pose une question d'identité. Bon, c'est une copie de notre statue. Mais regardez là, de plus près, la tête n'est pas ancienne, elle est l'œuvre du sculpteur baroque Pietro Bernini, et aussi la boîte à parfum, qui, je pense, a inspiré quelques parfumiers d'aujourd'hui. Alors, donc, c'est l'œuvre de Pietro Bernini, la tête, le père de Gian Lorenzo, au début du XVIIe siècle, donc sur une statue dont le corps était ancien. S'agit-il toujours de la même statue ou pas? À la prochaine semaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.